Bon week-end sur IDFM Radio.
IDFM Radio, 88 FM.
Vous écoutez Balade musicale avec Christophe Gravero.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre balade musicale. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver et d'être avec vous jusqu'à midi. Au programme de cette émission, la mélodie française au sommet avec le nouvel enregistrement de Sandrine Piau. Le magnifique altiste britannique Timothy Redoubt rend hommage à Lionel Tertis, un altiste anglais fameux, pédagogue, auteur de nombreuses transcriptions élargissant le répertoire de son instrument. Et tout de suite, nous avons le grand plaisir d'accueillir dans notre studio la pianiste Paloma Quider pour la sortie de son disque solo « Ludwig versus Beethoven » qui sort chez BY Classic Label. Bonjour Paloma, je suis très heureux de vous retrouver.
Bonjour Christophe, moi aussi.
Lors de vos précédentes visites dans notre studio d'IDFM Radio, vous étiez accompagné par quelques-uns de vos partenaires de musique de chambre pour présenter les enregistrements du trio Karénine. Un ensemble que vous avez fondé en 2009, il y a 15 ans déjà, et qui se produit sur les scènes les plus prestigieuses du monde. Un trio qui compte dans le paysage musical français, avec à son actif une abondante discographie allant de Schumann à Ravel, en passant par des transcriptions de Schoenberg et de Liszt, et dernièrement, un album de musique tchèque avec Dvorak et Souk. Des enregistrements qui ont tous reçu un magnifique accueil de la critique. Aujourd'hui, Paloma Quider, vous revenez à Beethoven, dont la sonate numéro 15 pastorale figurait sur votre premier disque, mais dans une démarche très originale avec cet album « Ludwig versus Beethoven ». Pourquoi ce titre, Paloma Quider ?
Alors on entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette question. L'idée de ce titre était de... justement d'être au cœur de mon propos dans cet enregistrement, c'est-à-dire on entend évidemment beaucoup les sonates hein, de Beethoven, les 32 sonates, régulièrement données en récital, très régulièrement enregistrées, et puis on entend les variations, les Diabelli, les variations Eroica, il y en a beaucoup chez Beethoven, à peu près 20 cahiers. On entend aussi les œuvres de la fin, donc je pense aux deux cycles de Bagatelle, opus 119 et opus 126 qui figurent au programme de ce disque. En revanche, on entend très peu les toutes premières œuvres de Beethoven. En fait, Beethoven, un peu comme Mozart, était ce qu'on appelle en allemand un Wunderkind, un enfant prodige. Évidemment, il était un génie de son instrument, le piano forte à l'époque. Mais il a aussi commencé à écrire la musique très tôt, poussé par son professeur de l'époque, un certain Neffe. Et il a commencé à composer donc vers 11 ans. Et sa première œuvre est un cycle de variations, comme par hasard. Il a utilisé énormément ce procédé de composition par la suite. Un cycle de variations sur une marche d'un compositeur relativement inconnu qui s'appelle Dressler. Et en les jouant il y a quelques années, je me suis dit que finalement ces œuvres, on les entend dans des enregistrements, dans des anthologies en fait, dans des intégrales Beethoven, mais finalement on ne les retrouve que très rarement confrontés aux derniers opus. Et or, je trouve que dans ces œuvres de jeunesse, il y a déjà en ferment, comme des jeunes pousses, des caractères, des traits de personnalité, de composition de Beethoven, que l'on va retrouver tout au long de sa vie de compositeur. Voilà, et j'avais très envie de confronter ces œuvres de la fin et du début pour faire entendre ces extrémités de la vie de Beethoven et voir à quel point il y a des constantes, déjà.
Mais on va vous entendre, Paloma Quider, dans ce Beethoven de 13 ans, les variations sur un thème de Dressler.
Thank you.
Notre invitée sur IDFM Radio, la pianiste Paloma Quider, était l'interprète d'une des toutes premières œuvres, sinon la première de Beethoven, Les Variations sur un thème de Dressler, extrait de son tout nouveau et très beau disque, Ludwig versus Beethoven, paru chez BY Classic Label. Une question, Paloma. C'est une œuvre qui n'est pas répertoriée dans les opus de Beethoven, mais elle est présentée sous l'étiquette WOO. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, effectivement, c'est un peu mystérieux. Il s'agit d'un acronyme, en fait, de la formulation allemande « Werke », Ohne Opus, c'est-à-dire œuvre sans numéro d'opus. Voilà. Donc, cet acronyme définit les œuvres qui ont été publiées a posteriori, enfin après la mort de Beethoven, posthume en fait. Hein. Voilà. Donc après, voilà, il y a tellement d'œuvres. Beethoven a tellement composé que finalement, je pense que c'est difficile de savoir ce qu'il aurait voulu garder, conserver malgré tout. Puis il y a aussi le jeu des éditeurs. Je pense qu'il y a des œuvres qui ont été publiées. Peut-être que finalement Beethoven aurait préféré qu'elles ne le soient pas. Je n'ai pas suffisamment creusé la question. Mais en tout cas, voilà la source du mystère.
Bien. Alors comment, puisque vous avez joué des bagatelles, ces bagatelles des opus 119 et 126, pourquoi d'ailleurs ce titre bagatelle ? Est-ce que ça veut dire que ce sont des petites pièces sans importance ou est-ce que ça veut dire un peu autre chose ?
Les deux. Le terme allemand, Kleinigkeiten, signifie un peu broutille, en fait, des petits riens. Évidemment, petits riens, sûrement parce que les pièces sont extrêmement brèves. La plus brève, c'est la dixième de l'opus 119 qui dure, tenez-vous bien, une portée, une ligne, en fait. Donc c'est extraordinaire, enfin, une phrase, de manière vraiment extrêmement éphémère. Donc, des petits riens de par leur longueur, chacune est relativement brève. Le tout premier cycle de bagatelles, opus 33, qui ne figure pas au programme de ce disque, donc cette bagatelle, elles n'étaient pas destinées à former un cycle. Les bagatelles opus 119, il y a une brèche entre les deux moitiés de ces bagatelles.
Oui, puisque je vois, voilà. Pardon de vous interrompre, j'ai vu en effet sur votre disque, oui. 1800 ou 1802 et 1822.
Voilà, c'est ça, elles n'ont pas 20, été. 22. Voilà, il y a deux groupes en fait de bagatelles qui ont été ensuite rassemblées. Oui. Alors que l'opus 126, donc qui constitue en fait les dernières œuvres de Beethoven pour le piano, pour son instrument, elles ont été composées sous forme de cycle. Donc en un véritable parcours. En revanche, si elles sont extrêmement brèves par leur durée, elles sont d'un condensé de sentiments, de caractères, de vie confondant. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui me plaît énormément aussi dans ces œuvres, c'est qu'évidemment, on est habitué à la forme sonate aussi, hein, exposition, développement, réexposition. Mais là, on a affaire à un déroulement de la pensée de Beethoven qui est beaucoup plus libre, absolument pas contraint par une forme héritée des compositeurs de la période classique, comme Haydn, Mozart, par exemple. Et ça donne à Beethoven une capacité d'innovation. Enfin, vraiment, on est dans quelque chose, dans un propos extrêmement avant-gardiste. Et je trouve ça fascinant, en fait, toujours. C'est pour ça que finalement, ces bagatelles sont inépuisables. On a l'impression que leur substance nous échappe. Alors, certaines paraissent assez naïves. Je pense qu'on va en écouter certaines. Elles sont faciles. Je crois que Beethoven les qualifiait de faciles et agréables à jouer, sous-entendu. Oui. Alors certaines sont quand même assez difficiles, mais bon, on sait qu'il était très très bon pianiste. En tout cas, il y a une forme de fulgurance dans l'art de la bagatelle. Et voilà, aussi le fait tout simplement de les qualifier bagatelles, ça les a rassemblés aussi sous un même... puisqu'il a inventé quelque part une forme, en fait. Hein. Il a taillé sur mesure une forme pour son inventivité.
Alors on va débuter avec les bagatelles de l'opus 119, dont certaines ont été écrites vraiment au tout début des années 1800. Donc c'était encore un Beethoven très jeune, même s'il les a peut-être revues un peu après.
Oui, tout à fait. Après, Beethoven était, on l'a dit, très précoce, puisque son premier cycle de variations était composé, il avait 12 ans. Donc finalement, Il avait déjà énormément avancé dans son parcours, écrit beaucoup pour la musique de chambre, les symphonies, les quatuors hein, aussi. Donc je dirais qu'on est déjà quelque part dans un Beethoven assez mûr finalement.
Alors si on relit Romain Rolland, Romain Rolland nous dit que les numéros 2 et 4 seraient les plus anciennes, c'est celles que j'ai choisies pour vous entendre, Paloma Quider, dans ces deux bagatelles, numéros 2 et 4 de l'opus 119 de Beethoven. Ludwig van Beethoven sur IDFM Radio, c'était deux bagatelles de l'opus 119 par notre invité Paloma Quider. Il y a une pièce que l'on a ou que l'on croit avoir souvent entendue, sans forcément d'ailleurs savoir qu'il s'agit d'une pièce de Beethoven. C'est le fameux Rondo a Capriccio, opus 129, dit « Colère pour un sou perdu » qui a toute une histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire, Paloma Quider ?
Oui, alors je crois qu'il a surtout une très bonne stratégie d'édition, puisqu'en fait... Il y a plusieurs histoires au sujet de ce rondo. Évidemment, il est très célèbre parce qu'il est virevoltant, il a un aspect aussi un peu furieux. On voit bien le Beethoven bouillonnant comme nous le présentent régulièrement ses portraits hein, dont on a trace. C'est un rondo qui était inachevé et c'est Anton Diabelli qui a fourni le thème hein, pour ces fameuses variations Diabelli très célèbres, qui l'a achevé après la mort de Beethoven en 1828. C'est d'ailleurs pour ça qu'il porte le numéro d'opus 129, opus 129 postérieur au dernier cycle de Bagatelle. Non pas qu'il ait été composé après, mais il a été publié après. Voilà. Alors oui, colère pour un sou perdu. En fait, c'est un titre d'éditeur, bien sûr, hein, pour vendre l'œuvre, comme certains titres de sonates de Beethoven, bien sûr.
Claire de lune, par
exemple.
Voilà,
Claire de lune, le plus fameux, sûrement. Ce qui est fabuleux dans ce rondo, c'est que finalement, il est extrêmement varié. À chaque fois que le refrain, donc la mélodie que l'on entend au tout début, réapparaît, elle va être le refrain va être ornementé, il va passer à la main gauche, par exemple. Voilà, donc finalement, pour l'interprète, c'est finalement assez ardu, puisque on doit apporter à chaque fois cette fraîcheur, renouveler cette fraîcheur du refrain qui revient. Puis surtout, ça ne s'arrête jamais. Enfin, il y a contrairement aux bagatelles qui sont très fréquemment entrecoupées par des silences assez théâtraux, assez rhétoriques. Là, c'est un flux continu, en fait. Voilà, avec une main gauche qui martèle son accompagnement en croche. Enfin, voilà. Donc, mais en revanche, Beethoven avait indiqué leicht Capriz, donc caprice léger, Capriz parce que capriccio, cette forme qui indique que c'est un rondo non pas qui suit une forme classique, mais légèrement changeant à chaque apparition.
On va vous écouter, Paloma Quider, dans ce rondo capriccio. Colère pour un sou perdu de Beethoven.
Thank you.
Beethoven par notre invité Paloma Quider, le rondo et capriccioso opus 129, Colère pour un sou perdu, qui figure dans son nouveau disque très original, proposant un autre regard sur le catalogue des œuvres pour piano de Beethoven, sorti chez BY Classic Label. Et votre disque s'achève avec de petits chefs-d'œuvre par leur concision, mais qui sont du grand Beethoven. Ce sont les six bagatelles de l'opus 126, composées entre 1823 et 1824, c'est-à-dire au moment où il achève sa fameuse 9e symphonie. Ont-elles été écrites ensemble, Paloma, ces bagatelles de l'opus 126 ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, elles ont été, en tout cas, conçues par Beethoven comme un cycle. On peut penser aussi que Beethoven souhaitait qu'on les joue à la suite. Et c'est vrai que dans cette succession d'états très, très variés, on a... Moi, je trouve qu'elles sont toutes traversées par un souffle d'ordre ou un questionnement d'ordre métaphysique. Il y a une vraie profondeur, une densité dans ces bagatelles. On sent que Beethoven est à la fin de sa vie, qu'il a déjà parcouru un immense trajet, qu'il soit un trajet de vie, bien sûr, et puis avec toutes les insatisfactions de sa vie, cette incroyable... paradoxe qui est qu'il est un des plus grands compositeurs, adulé d'ailleurs à l'époque, même si certaines de ses œuvres ne sont pas comprises par le grand public. Mais par exemple, Schubert était complètement écrasé par le poids de Beethoven, qu'il admirait tellement. Mais donc cette espèce de paradoxe qui est qu'en fait, finalement, il a été touché par la surdité extrêmement jeune. Donc c'est quand même, aujourd'hui, quand on y pense, évidemment, un compositeur ou un musicien entend la musique intérieurement. Il n'a pas besoin de la chanter ou de l'entendre de façon extérieure pour la concevoir. Mais en revanche, quel sentiment étrange ce devait être d'assister aux créations, par exemple, de ses propres œuvres et de ne pas vraiment les entendre. Alors, on sait qu'il entendait des vibrations, etc. Mais notamment, les compositeurs dirigeaient aussi beaucoup leurs propres œuvres. Mais comment diriger lorsqu'on n'entend pas ? Voilà, tout ça, ça a été rapporté dans des témoignages voilà, très intéressants, d'ailleurs. Mais voilà, donc ces bagatelles sont conçues comme un cycle. Et je dois dire qu'à chaque fois que je les joue en public... quel que soit le degré de connaissance des personnes qui constituent le public, elles touchent, alors même qu'elles sont extrêmement, pour certaines, assez abstraites. Je pense notamment à la quatrième, qui est extrêmement abrupte et qui repose sur un principe de composition qui est la répétition, jusqu'à ce qu'on en soit... Enfin, cette répétition, elle est écrasante, en fait. On a presque envie que ça s'arrête. Donc, il joue sur des ressorts aussi, je pense, psychologiques de la part, vis-à-vis de l'auditoire, qui est assez... des ressorts très forts, très puissants.
On écoutera cette bagatelle avant de se quitter,
voilà.
Paloma.
Et sinon, le matériau est extrêmement sobre, parfois lyrique. Hein, et ça, cela demande de la part de l'interprète une extrême puissance et honnêteté de la... Pour vraiment passer un message avec ce matériau si sobre, il faut vraiment le vouloir intensément. Voilà.
Et la deuxième bagatelle que je vous propose d'écouter, qu'en pensez-vous ?
Bon, la deuxième bagatelle, pour moi, c'est vraiment le à brûle-pourpoint. C'est-à-dire que ça commence par un questionnement. Toute cette bagatelle est un questionnement avec entrecoupé de d'une mélopée d'une infinie tendresse, qui était aussi celle de Beethoven, et on l'oublie très fréquemment.
Deuxième bagatelle par Paloma Quider. Thank you. Ludwig van Beethoven, c'était la deuxième bagatelle de l'opus 126 sous vos doigts, Paloma Quider. Comme vous l'écrivez dans votre texte de présentation, cette bagatelle et tout le cycle d'ailleurs, c'est un véritable condensé d'humeur, de matière sonore, dans lequel Beethoven fait preuve d'un art du détail, de hauteur de vue et aussi de spiritualité qui sont vraiment du grand Beethoven. Avez-vous des dates de concert, Paloma?
Oui, alors j'en ai beaucoup dans le cadre de ma pratique de chambriste. Notamment, je partirai avec mon trio, le trio Karénine, dans quelques semaines, en fait, jouer en Australie pour une tournée, notamment à l'Opéra de Sydney.
Magnifique endroit.
À Canberra aussi, au Festival de musique classique, à Adélaïde. Ensuite, enfin voilà, l'actualité est assez riche et en termes de concerts avec un programme solo, notamment le Beethoven, je serai cet été au Festival des Vallées Vertes, près de pas très loin de Besançon, dans l'est de la France. Voilà, avec aussi du Schumann et du Schubert que j'affectionne tout particulièrement et qui, pour moi, sont deux compositeurs qui ont des liens très forts avec Beethoven. Notamment, dans ces bagatelles de Beethoven, il y a pour moi l'annonce de Schumann, en fait, de ses appels. Je pense aussi à Clara, à tout cet univers germanique, pour moi extrêmement inspiré de Beethoven, qui fait vraiment le lien pour moi entre le classicisme de Haydn, qu'il a connu, avec lequel il a travaillé, auquel il a montré ses premiers essais de trio. D'ailleurs, Haydn était à la fois admiratif et en même temps peut-être un tout petit peu jaloux finalement de ce tout jeune compositeur qui lui présentait son opus 1, ses trios qui sont absolument incroyables. Voilà, donc il lui a je pense qu'il a été un petit peu dur avec Beethoven à cette époque. Et puis voilà, Schubert, on en parlait tout à l'heure, qui finalement s'est libéré du joug, entre guillemets, de Beethoven après la mort de Beethoven et qui a pu enfin composer certaines grandes œuvres. Et Schumann, qui pour moi vraiment, notamment dans la forme, je pense à ces formes très brèves qu'affectionnait Schumann, je pense aux scènes de la forêt, enfin tout un tas de cycles, hein, pour piano.
Les scènes d'enfants,
voilà. Ouais. Pour moi, ce sont aussi des miniatures qui racontent vraiment une histoire. Bon, là, en l'occurrence, chez Schumann, il y a l'idée de la musique à programme, hein, puisqu'il y a souvent des titres inspirés de la poésie allemande. Voilà, pour moi, il y a des parentés très très présentes, et c'est vrai que le fait de plonger de manière très intense dans l'univers de Beethoven m'ouvre certaines portes, je pense, dans ces répertoires-là aussi.
Alors, on va écouter cette quatrième ballade de l'opus 126 dont vous parliez tout à l'heure, Paloma, qui est vraiment une œuvre assez magique, il faut reconnaître, assez extraordinaire, et métaphysique aussi, bien sûr, de Beethoven.
Oui, tout à fait.
Thank you.
Un chef-d'œuvre, intense mais bref. C'était la quatrième bagatelle opus 126 de Beethoven par notre invité, la pianiste Paloma Quider. Un extrait de ce très beau disque, Ludwig versus Beethoven, paru sous le label BY Classique. Merci beaucoup, Paloma.
Merci, cher Christophe.
Très bonne journée et très bonne tournée en Australie.
Merci beaucoup.
Revenez-nous très vite pour nous parler de votre prochaine actualité.
Avec plaisir.
Après Clair Obscur, la soprano Sandrine Piau publie Reflet, avec la complicité de l'orchestre Victor Hugo, sous la baguette de l'excellent chef Jean-François Verdier, déjà partenaire de l'album précédent. Sandrine Piau porte au sommet les couleurs de la mélodie française. Voici le spectre de la rose, du cycle Les Nuits d'été d'Hector Berlioz, sur un poème de Théophile Gautier.
Et mon âme se
Hector Berlioz sur IDFM Radio, Le spectre de la rose, extrait du cycle Les nuits d'été. Sandrine Piau chantait avec une voix à la rondeur satinée, dont la fraîcheur et l'homogénéité sont magnifiquement préservées. Elle était accompagnée par l'orchestre Victor Hugo, très délicatement conduit par Jean-François Verdier. Un disque sorti sous le label Alpha Classics, qui vient d'être récompensé par un diapason d'or amplement mérité. L'album contient également une version magnifiquement maîtrisée des trois poèmes de Stéphane Mallarmé de Maurice Ravel, deux merveilleuses mélodies moins connues, mais à découvrir d'urgence de Charles Koechlin, et deux mélodies de Duparc parmi les plus célèbres, comme l'invitation au voyage sur un poème de Baudelaire. Écoutons Sandrine Piau et l'orchestre Victor Hugo avec au pupitre Jean-François Verdier. La soprano Sandrine Piau était l'interprète idéale de l'invitation au voyage, poème de Baudelaire mis en musique par Henri Duparc, avec l'orchestre Victor Hugo et son chef Jean-François Verdier. Un album sorti chez Alpha Classics qui ravira tous les amateurs de très beaux chants. Le jeune altiste britannique Timothy Rideout, dont nous avions apprécié à ce micro les immenses qualités dans son interprétation de Harold en Italie d'Hector Berlioz, célèbre dans un double album un hommage à Lionel Tertis, un fameux altiste anglais, pédagogue et interprète, qui s'employa par de nombreuses transcriptions à élargir le répertoire de son instrument l'alto. Sa transcription de l'élégie de Gabriel Fauré est une grande réussite. Timothy Rideout, alto, est accompagné par Franck Dupré, piano. a vraiment une interprétation poignante de la transcription de l'élégie de Gabriel Fauré. Timothy Rideout, alto, et Frank Dupree, piano, un extrait de ce double album en hommage à Lionel Tertis, paru sous le label Harmonia Mundi. Le disque propose des pièces de compositeurs britanniques, Frank Bridge, York Bowen, Vaughan Williams, des transcriptions d'œuvres de Brahms, de Schumann, de Mendelssohn et aussi de Fritz Kreisler, avec qui Lionel Tertis partageait la scène. Avant de refermer notre émission, voici Préludium et Allegro dans le style de Paganini de Fritz Kreisler, Timothy Rideout alto et Frank Dupree piano. Fritz Kreisler était interprété par l'altiste virtuose Timothy Rideout et le pianiste Frank Dupree, un extrait du double album célébrant l'artiste et auteur de magnifiques transcriptions, Lionel Tertis, paru chez Harmonia Mundi. Je vous donne rendez-vous demain dimanche matin à 11h pour une nouvelle balade musicale. Passez une très bonne journée. Merci à Christophe à la technique et restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio.